Une vie, une œuvre, Agota Christophe, 1935, Hongrie, 2011, Suisse. Pendant des mois, nous polissons, nous vernissons le crâne et les os de notre mère et du bébé. Puis, nous reconstituons soigneusement les squelettes en attachant chaque os à de minces fils de fer. Quand notre travail est terminé, nous suspendons le squelette de notre mère à une poutre du galetas et accrochons celui du bébé à son cou. Ce sont des phrases pures et violentes, des situations sèchement décrites, signées Agota Christophe. À 21 ans, elle quitte la Hongrie alors que l'armée soviétique fait face à une révolte nationale. Plus de 2500 Hongrois sont tués et 200 000 deviennent des réfugiés. Arrivée en Suisse, Agota Christophe raconte « Deux jeunes femmes habillées comme des militaires prennent nos enfants avec des sourires rassurants. Hommes et femmes sont séparés pour la douche. On emporte nos vêtements pour les désinfecter. Ceux qui, parmi nous, ont déjà vécu une situation semblable avoueront plus tard qu'ils ont eu peur. » Ensuite, elle gagne sa vie dans une usine d'horlogerie et écrit des poèmes. L'écriture finira par primer. Le Grand Cahier, publié en 1986, constitue le premier tome de la trilogie des jumeaux. Suivent L'analphabète, C'est égal, Où es-tu Mathias, et de nombreuses pièces de théâtre. Sylvie Tanette signe, avec Ghislaine David, Une vie, une œuvre, Agota Christophe.
Agota Christophe, on aimerait bien mieux vous connaître parce que vous avez un parcours assez particulier. Donc vous êtes née en Hongrie.
Oui.
Oui. Il s'est passé beaucoup de choses en Hongrie, donc vous avez dû quitter le pays.
Oui, je l'ai quitté à l'âge de 21 ans.
Oui, c'était en 1956.
Beaucoup
de Hongrois ont quitté leur pays à ce moment-là.
200 000.
Oui. Vous êtes arrivée en Suisse.
Oui, par hasard, on peut dire tout à fait par hasard en Suisse, oui.
Oui, vous aviez déjà la vocation de l'écrivain ou comment ça s'est passé?
J'écrivais déjà en hongrois.
Oui.
Mais je ne connaissais pas le français ni l'allemand.
C'est ça qui est formidable aussi.
Je suis arrivée en Suisse. Je ne savais aucune autre langue.
Alors comment on fait pour devenir un écrivain primé en français?
Alors ça, c'est une longue histoire. C'est beaucoup de travail.
Allez-y, on a le temps.
Agota Christophe, une Hongroise suisse dans la littérature française.
C'est quelqu'un qui a réussi à bâtir tout un monde qui rend pleinement compte du drame de l'Europe de l'Est, alors même qu'elle écrit une œuvre totalement irréaliste. Agota Christophe a toujours pris soin de tourner le dos au réalisme.
Bertrand Visage.
Elle n'écrit pas une œuvre de témoignage, elle n'écrit pas une transcription des événements. Elle est toujours totalement dans le domaine de la fable. Mais une fable qu'elle pousse à ses limites, qui est une fable généralement monstrueuse. La notion de monstruosité revient souvent dans ce qu'elle écrit. Il y a une pièce qui s'appelle Le Monstre. Les jumeaux sont héros de la trilogie, sont eux-mêmes des êtres à la fois très attachants et dépourvus des sentiments qu'un lecteur bien pensant voudrait trouver chez eux. C'est donc des fables très dérangeantes, mais toujours habitées par cet univers quasi enfantin, avec aussi la cruauté et l'absence de morale propre à l'enfance. Et avec une sorte d'ingénuité comme ça et de radicalité, elle réussit à créer une œuvre qui ne ressemble à rien de connu.
Je vais vous dire une parole de Nicolas Bouvier sur elle. Il lui a écrit et il lui a dit « Chaque phrase est presque inscrite dans ma tête. » Ce sont de belles gemmes qui échappent à l'usure du temps.
Marlise Pietri.
J'étais complètement fascinée par ses livres, par la trilogie des jumeaux, par Le Grand Cahier, La Preuve, Le Troisième Mensonge. Alors l'écriture d'Agota dans Le Grand Cahier, elle vous prend à la gorge, puisque les deux enfants écrivent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, et jamais ce qu'ils pensent ou ce qu'ils imaginent. Quand on aime l'écriture, on est tout à fait fascinée par ce choix et par le fait qu'elle arrive à trouver comme ça une adéquation parfaite entre les aventures terribles de ses deux enfants et l'écriture qui est sans aucune fioriture.
C'est une histoire qui se joue dans un pays qui n'est pas nommé, avec des frères jumeaux qui s'appellent Klaus et Lucas.
Mélinda Maud.
Ce sont des frères jumeaux qui ont une enfant joyeuse, qui se retrouvent dans une guerre. On ne nomme pas la guerre, mais il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Leur mère n'a plus rien à leur donner à manger, donc elle les envoie chez la grand-mère, qui habite à la campagne, avec qui la mère a cessé toute relation il y a longtemps. Donc la grand-mère n'a jamais vu les jumeaux. Les jumeaux arrivent et découvrent une grand-mère avare que tout le monde appelle la sorcière. Donc les jumeaux se retrouvent à devoir travailler très jeunes. Et pour survivre, ils commencent à rédiger un cahier. Un cahier dans lequel ils décrivent ce qu'ils ont vécu dans la journée. Et leur seule règle, c'est d'être vrai, de n'écrire que la vérité. Pour survivre, ils inventent des exercices. Des exercices très cruels quand on parle de très jeunes enfants.
C'est dimanche. Nous attrapons un poulet et nous lui coupons la gorge comme nous avons vu grand-mère le faire. Nous apportons le poulet à la cuisine et nous disons « Il faut le cuire, grand-mère ». Elle se met à crier « Qui vous a permis ? Vous n'en avez pas le droit. C'est moi qui commande ici, espèce de petit merdeux. Je le cuirai pas, je préfère crever. » Nous disons « C'est égal, nous le cuirons nous-mêmes. » Nous commençons à plumer le poulet, mais grand-mère nous l'arrache des mains. « Vous ne savez pas vous y prendre, petit saligaud, misère de ma vie. » La punition du bon Dieu, voilà ce que vous êtes. Quand elle s'est un peu calmée, nous lui disons encore « Quand il y aura quelque chose à tuer, il faudra nous appeler. C'est nous qui le ferons. » Elle dit « Vous aimez bien ça, hein ?»« Non, grand-mère, justement, nous n'aimons pas ça. C'est pour cette raison que nous devons nous y habituer. » Elle dit « Je vois, c'est un nouvel exercice. Vous avez raison. » Il faut savoir tuer quand c'est nécessaire.
Je l'ai tout de suite connue comme écrivain. Et pendant des années, elle a pensé à ce livre. Et elle nous en parlait en espérant beaucoup de ce livre. En espérant pour elle-même pouvoir raconter ce qu'elle avait à raconter.
Monique Dittisheim.
C'était une vraie libération d'écrire ce livre. On la retrouvait d'ailleurs, sans y penser tout d'un coup, tiens. On retrouvait Agota Christophe derrière ses dialogues. Oh, elle disait que ça allait être un chef-d'œuvre, et ça l'a été. Et c'est peut-être même à cause de la simplicité du vocabulaire que ce livre est si fort. Il y a des scènes assez atroces, mais quelque part, on s'y retrouve toujours quand ces jumeaux, par exemple, se battent pour résister, on ne peut pas ne pas être touché. Parce que peut-être, une fois dans notre vie, on aura besoin de résister comme ça. Ou on a toujours besoin de résister, de toute façon.
C'est très troublant, puisqu'il s'exprime en disant « nous » et il ne dialogue pas entre eux. C'est-à-dire qu'il parle d'une seule voix. Il y a ce « nous » très curieux qui est, je crois, unique pratiquement dans la littérature.
Il s'agit d'un « nous » qui est égal à « je plus je » et pas à « je plus tu ». Et il s'agit des jumeaux qui vivent tout ensemble, qui n'ont pas de sentiments différents, qui n'ont pas de voix différentes. Ils ressentent la même chose, deux personnes font une seule personne. Donc.
Il n'y a qu'une seule fois dans le livre, je crois, où ils se séparent d'une certaine manière, c'est dans un jeu où un est aveugle et l'autre sourd.
Oui, ils se séparent, mais justement il y a un dialogue de sourds, parce que l'un est aveugle, donc ne voit pas ce que l'autre fait, l'autre est sourd et n'entend pas ce que l'autre lui dit. Et c'est intéressant parce que cette scène fait référence à un petit poème enfantin en Hongrie. C'est le dialogue de l'aveugle et sourd. Il faut savoir qu'au début, dans les premières versions, il ne s'agissait pas de jumeaux, mais d'une fille et d'un garçon, d'Agota Christophe et de son frère Yannou. Et elle commence à écrire d'une manière autobiographique, sauf qu'elle dit que répéter à chaque fois « mon frère et moi », alourdissait le texte. Et tout ce qu'elle voulait, c'est la simplicité. Et donc elle a commencé à barrer et à remplacer par quelque chose. Et cette autre chose, c'était les jumeaux.
Un jour, nous pendons à la branche d'un arbre notre chat, un mâle roux. Pendu, le chat s'allonge, devient énorme. Il a des soubresauts, des convulsions. Quand il ne bouge plus, nous le dépendons. Il reste étalé sur l'herbe, immobile, puis brusquement se relève et s'enfuit. Depuis, nous l'apercevons parfois de loin, mais il ne s'approche plus de la maison. Il ne vient même pas boire le lait que nous mettons devant la porte dans une petite assiette. Grand-mère nous dit « Ce chat devient de plus en plus sauvage. » Nous disons « Ne vous en faites pas, grand-mère. Nous nous occupons des souris. » Nous fabriquons des trappes et des souris qui s'y laissent prendre, nous les noyons dans de l'eau bouillante.
Question de survie. Comment on peut rester sain? Comment on peut continuer à vivre dans un autre pays? Comment on peut continuer à vivre dans une autre langue? Et quand on fait le retour dans le pays, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on peut être sûr de ce qui s'est passé sans connaître l'histoire de l'autre qui était le soi-même? Parce qu'il s'agit de jumeaux qui ont tout vécu ensemble. On retrouve très rarement cette densité d'écriture, même si, bien évidemment, le thème de la Seconde Guerre mondiale a été retravaillé maintes fois. Mais dans la trilogie, il ne s'agit pas que de la guerre, mais de ce qui arrive après, dans l'exil, et dans un pays qui est gouverné par un gouvernement totalitaire.
Au fond, Mélinda Mode, dans cette trilogie, c'est quoi le plus important? C'est la guerre, c'est l'exil, c'est la période totalitaire qu'a connue la Hongrie, ou est-ce que c'est la petite enfance et le frère qui est jumeau sans être jumeau, qui est là sans être là?
Pour moi, le centre, c'est comment on peut rester humain et avoir des principes. Parce que bien que les frères jumeaux accomplissent des exercices de cruauté, ils ont des principes. Et ils restent fidèles à ces principes.
La dernière page du Grand Cahier est tout à fait étonnante, puisque donc les jumeaux passent la frontière avec le père, mais la frontière est minée. Et le père saute sur la mine. Et à ce moment-là, les enfants savent que le passage est possible parce qu'il y a une seule mine. La mine a déjà explosé. Mais l'un passe et l'autre reste. Il dit, l'un de nous reste ici. Mais l'un de nous, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on n'a jamais eu autre chose que ce nous, d'un bout à l'autre de la narration, ce pronom personnel pluriel. Hein, et on sait qu'il va se fracturer là, à la dernière page, puisque l'un reste d'un côté, l'autre de l'autre. Les deux volumes suivants de la trilogie, La Preuve et Le Troisième Mensonge, sont des sortes de déconstructions de l'histoire qui nous a été racontée, à laquelle nous avons cru avec beaucoup de force. Un doute s'insinue peu à peu, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. L'histoire pourrait avoir eu lieu d'une manière tout à fait différente, et c'est un jeu qui n'est pas cérébral.
Il y a un mécanisme à travers lequel l'angoisse des personnages se transmet dans les lecteurs. Alors, cette angoisse finit par influencer
Sarah de Balzi.
Le sentiment du lecteur à travers l'œuvre. Surtout dans Le Troisième Mensonge, le lecteur ne sait pas, ne comprend pas qui est qui dit la vérité, tout simplement, qui est le protagoniste de ce roman qu'on est en train de lire. Agota Christophe arrive à construire une œuvre qui est une fabrique d'interprétation.
« Alors, je me souviens très très bien quand elle avait fini d'écrire son manuscrit et elle l'a envoyé par la poste très très simplement. Elle n'est pas allée la porter, elle n'est pas. Elle l'a envoyé au Seuil, à Grasset et puis à Gallimard. Et puis Grasset et Gallimard ont été très discrets, mais le Seuil lui a fait une ovation alors.
Vous sentez une sorte de fil rouge, de cohérence entre les différents livres que vous avez écrits en français ?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte d'obsession. Il y a l'émigration, le dédoublement de la personnalité, l'obsession du pays natal, et c'est surtout une grande déchirure. Je crois que ça existe en moi depuis l'âge de 14-15 ans, quand j'étais séparée de mes frères. C'était la première déchirure.
Elle est née en 1935 en Hongrie, à Csíkvárd, et elle a passé toute sa jeunesse près de la frontière austro-hongroise. Elle est née dans une fratrie de 3 enfants, où elle a passé une jeunesse très joyeuse avec son père instituteur et sa mère enseignante, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où son père a été emprisonné et elle s'est retrouvée avec ses frères chez sa grand-mère, qui était une femme assez dure. Et après, les 3 enfants ont dû aller dans des internats différents. C'est à l'internat qu'elle a commencé à produire des textes, à écrire des pièces de théâtre et des poèmes en hongrois.
La petite enfance, c'est le berceau de son œuvre. Tout part de là. Et il y a constamment la volonté de rester fidèle à cette enfance qu'elle a eue. Rester fidèle à son enfance, c'est une notion centrale chez Agatha Christophe. L'histoire avec un grand H, c'est le monde des adultes et ça n'intéressait que modérément. Et en fin de compte, on a le sentiment qu'elle a connu une forme de bonheur dans son petit village de Hongrie. En tout cas, elle regrettait très profondément que la malédiction historique l'ait amenée à quitter son pays.
Elle a dû quitter la Hongrie parce que en 1956, après l'insurrection hongroise contre l'armée soviétique, son mari, qui est impliqué dans l'insurrection, a dû fuir le pays en craignant des représailles. Elle est juste mère d'une petite fille de 3 mois. Elle choisit de fuir.
Nous sommes ici aux confins de l'Autriche et de la Hongrie. Cette frontière, dès l'intervention militaire de l'Union soviétique, fut pour des milliers de Hongrois la ligne idéale qu'il fallait franchir à tout prix. Jour après jour, semaine après semaine, depuis le 4 novembre 1956, c'est le même tragique exode de famille, s'enfuyant, abandonnant tout derrière elle, osant tout pour s'échapper.
Cette révolution s'est plutôt passée à Budapest. J'en ai vu peu de choses. J'habitais dans une autre ville à ce moment-là. J'ai vu les défilés, mais il n'y avait pas de combat dans la ville où j'habitais. Mais par contre, quand le 4 novembre, les Russes ont re-envahi la Hongrie, alors là, ça s'est passé dans chaque ville. Il y avait des tanks au coin des rues, on ne pouvait pas sortir. Nous habitions près de la frontière et c'était assez facile à passer à ce moment-là parce que les gardes frontières ont été démobilisés. Moi, j'ai l'impression qu'on nous a laissé passer, c'est-à-dire on voulait se débarrasser des éléments subversifs. À ce moment-là, la frontière était presque ouverte. Nous devions quand même passer pendant la nuit. Et on entendait des tirs, mais je ne pense pas que nous avons risqué notre vie en passant la frontière.
Oui, je m'en souviens. J'ai 21 ans. Je suis mariée depuis 2 ans et j'ai une petite fille de 4 mois. Nous traversons la frontière entre la Hongrie et l'Autriche un soir de novembre, près précédé par un passeur. Il s'appelle Joseph, je le connais bien. Nous sommes un groupe composé d'une dizaine de personnes, dont quelques enfants. Ma petite fille dort dans les bras de son père. Moi, je porte deux sacs. Dans l'un des sacs, il y a des biberons, des langes, des habits de rechange pour le bébé. Dans l'autre sac, des dictionnaires. Nous marchons en silence derrière Joseph pendant une heure environ. L'obscurité est presque totale. Parfois, des fusées lumineuses et des projecteurs éclairent tout. On entend des pétarades, des tirs, puis le silence et l'obscurité retombent. À l'orée de la forêt, Joseph s'arrête et il nous dit « Vous êtes en Autriche, vous n'avez qu'à continuer tout droit. » Nous marchons dans la forêt. Longtemps, trop longtemps. Ce qui est curieux, c'est le peu de souvenirs que j'ai gardés de tout cela. C'est comme si tout s'était passé dans un rêve, ou dans une autre vie. Comme si ma mémoire refusait de se rappeler ce moment où j'ai perdu une grande partie de ma vie. J'ai laissé en Hongrie mon journal à l'écriture secrète et aussi mes premiers poèmes. J'ai laissé mes frères, mes parents, sans prévenir, sans leur dire adieu ou au revoir. Mais surtout, ce jour-là, ce jour de fin novembre 1956, j'ai perdu définitivement mon appartenance à un peuple.
Susanna Berry, vous êtes la petite fille qui a traversé la frontière dans les bras de son papa. C'est ce qu'on vous racontait aussi?
Alors, c'est ce qu'on m'a raconté, oui. Et c'est vrai que je ne m'en souviens absolument pas puisque j'étais un bébé de 4 mois.
Et qu'est-ce qu'on vous en disait?
Pas grand-chose de plus, si ce n'est que c'était la nuit. On m'avait donné un biberon avant de passer la frontière pour que je ne pleure pas. Puisque c'était sur un terrain exposé, que voilà, c'est un flot de réfugiés qui devait être discret.
Si je vous demandais de me raconter la vie d'Agota Christophe, vous pourriez me faire un petit résumé biographique?
Pas vraiment, je sais qu'elle a passé la première partie de son enfance dans un petit village de la campagne hongroise. Ensuite, la famille a déménagé pas très loin de la frontière autrichienne. Et c'est là que se situe l'action du Grand Cahier. Et voilà, ensuite, un parcours scolaire assez réussi, les études dans un lycée, en internat, et puis très vite, à 20 ans, le passage de la frontière avec son mari et son bébé. Donc ça, c'est pour le passé hongrois. Et ensuite, l'établissement à nouveau dans un petit village... dans une vallée du canton de Neuchâtel, et un long travail de 5 ans comme ouvrière dans une usine d'horlogerie avant de pouvoir descendre à la ville et de fréquenter l'université de Neuchâtel dans le cadre du séminaire de français moderne pour apprendre le français.
La frontière est une thématique obsessionnelle dans l'œuvre d'Agota Christophe. Elle revient dans toute son œuvre, elle revient dans chacun des romans, et aussi naturellement dans l'analphabète où il s'agit naturellement d'un épisode biographique. Cet épisode est décliné de manière différente. Souvent, un personnage franchit la frontière de manière solitaire, tout seul. À chaque fois, la frontière est franchie tout en étant infranchissable. Il y a donc ce paradoxe, pour ainsi dire. On trouve cette frontière qui est représentée de manière spatiale, donc frontière minée ou interdite, mais qui est sans cesse et sans exception franchie par l'un des personnages, avec des conséquences le plus souvent épouvantables qui seront par la suite explorées par le roman ou la pièce en question. Et à chaque fois qu'un personnage franchit ce type de frontière, il devient autre. Il reste le même, mais il devient autre, et il devient impossible finalement de donner une interprétation et d'établir l'identité, d'arrêter l'identité de ce personnage.
Alors, c'est assez amusant parce que vous vous retrouvez à Neuchâtel, je suppose qu'on parle français à Neuchâtel.
Oui.
Si ça avait été la Suisse alémanique, vous auriez écrit en allemand.
Oui. Oui, c'est évident.
D'ailleurs, vous ne connaissiez pas un mot de français avant.
Ni allemand, ni français.
Ni allemand, ni français. Oui. Et vous n'avez jamais été tenté, comme la plupart des exilés, d'écrire dans votre langue maternelle.
J'ai continué très longtemps avec des poèmes à écrire ici pendant une quinzaine d'années encore.
Oui. Et comment ça se passe alors la rencontre avec la langue française? Est-ce que c'est une rencontre heureuse ou...
Eh bien non, écoutez, c'était très difficile parce que je travaillais en usine où on ne peut pas tellement se parler parce que déjà les machines font beaucoup de bruit puis on peut... La discipline ne le permet pas, simplement. Alors j'ai, pendant 5 ans, très peu appris, juste quelques mots pour faire les courses, etc. Et après, j'ai eu une bourse de l'État de Neuchâtel pour une année, où j'ai pu m'inscrire à l'université de Neuchâtel, mais pas comme étude universitaire, c'était pour les étrangers. Donc on pouvait apprendre le français. C'est là que j'ai appris. Et surtout, c'est là que j'ai appris à lire le français, parce que même quand je parlais, la lecture n'était pas possible. Tellement c'était différent de...
Du hongrois, oui.
Elle a eu une vie difficile, oui, matériellement. Voilà. Nous en avons très peu parlé. Elle était avare de confidences. Elle était très avare de confidences. Et puis le passé était le passé, et il y avait une blessure très profonde. Et elle ne voulait pas... plus trop expliquer ce qui l'avait amené à changer de pays, à changer de langue, à faire ce trajet avec un homme qu'ensuite elle a cessé d'aimer. Tout ça était très compliqué en elle et tout ça était trop à vif.
La sortie en 56, au moment de la révolte hongroise et de l'exode de centaines de milliers de Hongrois qui arrivent en Suisse.
Daniel de Roulet.
C'est vrai qu'ils n'ont pas tout de suite été placés dans une situation idyllique, quoi. Ils s'imaginaient peut-être l'Occident d'une autre manière. Et il y a une désillusion de ces gens qui arrivent. Moi, je me souviens qu'en 56, on recueillait des couvertures pour aider les Hongrois parce que on trouvait que, voilà, ils n'étaient pas assez bien aidés. Donc les jeunes dans un village, on faisait des collectes pour les Hongrois. Et quand je lui racontais ça, elle disait, ben ouais, c'est exactement comme ça qu'on a été traités. C'est-à-dire qu'on pensait qu'avec 2-3 couvertures, ça suffisait. Mais moi, dans ma naïveté d'adolescent, je pensais qu'on faisait quelque chose de bien. Mais pour elle, c'était pas suffisant. Il y a d'ailleurs une phrase où elle dit, qui est dans son livre, dans Hier, où elle dit qu'après 10 ans, elle est toujours pas chez elle, quoi. Elle est pas... Il n'y a plus d'endroit pour elle, puisque ensuite, quand on lui demande est-ce qu'elle veut rentrer en 91, quand elle aurait pu rentrer, non, elle ne veut pas non plus aller en Hongrie. Alors j'ai choisi un petit passage que je voulais vous lire sur comment ça se passe en Suisse, parce que c'est les usines d'horlogerie, et ce qui s'y passe, c'est que les gens ont des travaux qui sont absolument répétitifs et très ennuyeux, et que tout le monde est très fatigué. Et je me souviens, elle m'avait raconté l'histoire, on distribuait ce qu'on appelait du saridon. C'est un médicament qui aujourd'hui est interdit, ou plutôt qui a été totalement modifié pour ne plus être interdit. Et on distribuait ça à toutes les ouvrières. La fabrique produit des pièces détachées, des ébauches, pour d'autres usines. Aucun d'entre nous ne pourrait assembler une montre complète. Quant à moi, je perce un trou avec ma machine dans une pièce définie. Le même trou, dans la même pièce. Depuis 10 ans. Notre travail se résume à cela. Poser une pièce dans la machine, appuyer sur la pédale. Avec ce travail, nous gagnons tout juste assez d'argent pour manger, pour habiter quelque part et surtout pour pouvoir recommencer le travail le lendemain. Qu'il fasse clair ou sombre, les néons sont constamment allumés dans l'immense atelier. Une musique douce est diffusée par des haut-parleurs. La direction pense que les ouvriers travaillent mieux avec de la musique. Il y a un petit bonhomme, ouvrier lui aussi, qui vend des sachets de poudre blanche, des tranquillisants, que le pharmacien du village prépare à notre intention. Je ne sais pas ce que c'est, j'en achète parfois. Avec cette poudre, la journée passe plus vite, on se sent un peu moins malheureux. La poudre n'est pas chère, presque tous les ouvriers en prennent. C'est toléré par la direction et le pharmacien du village s'enrichit. Il y a parfois des éclats, une femme se lève, elle hurle « je n'en peux plus ». On l'emmène, le travail continue, on nous dit « ce n'est rien, ces nerfs ont lâché ». Oui, elle racontait, parce qu'elle a vécu cette vie dans une usine à Fontaine-Melon, je crois que ça s'appelait. C'était un peu en dessus de Neuchâtel, et puis elle rentrait chez elle, chez son mari à l'époque. Ouais, pour elle, c'était, il fallait prendre quelque chose pour supporter ça. Donc, quand ça a plus été les saridons, ça a été l'alcool.
Et sur son apprentissage du français.
Je dirais que le rapport à la langue que nous avions les deux, c'est qu'effectivement, je la corrigeais quand elle faisait des fautes de français, mais des petites fautes, quand elle intervertissait des articles, puisque en hongrois, il n'y a pas le ni la, le genre n'existe pas de cette manière-là dans la langue. Donc voilà, elle avait des difficultés à s'y retrouver à ses débuts. Donc moi, je la corrigeais, mais comme un enfant, sans y penser, corrige quelqu'un. J'ai d'ailleurs jamais entendu son accent hongrois. Elle roulait les R, elle avait un accent hongrois que moi, malheureusement, je n'ai jamais perçu.
C'était une expérience très étrange pour elle de bâtir son œuvre dans une langue qui n'était pas la sienne, dans un pays, la Suisse, où elle n'avait pas choisi de vivre. Tout cela lui a été imposé. Hein. Et la langue française, elle, Agota n'avait pas ce rapport esthétisant qu'ont certains auteurs étrangers d'ailleurs. Pour elle, c'était simplement la langue qu'elle a dû utiliser presque par force.
À la différence d'autres auteurs translingues, Agota Christophe a refusé le rôle de passeur de langue, de passeur de culture que ses écrivains adoptent très souvent. Et par exemple, elle n'a jamais traduit les œuvres littéraires d'autres écrivains. Il n'a jamais écrit pour des journaux ou pour des revues au sujet, par exemple, d'autres auteurs hongrois. Le choix d'écrire en français est vécu de manière très singulière par rapport à la plupart des écrivains qui choisissent le français comme langue d'écriture. La critique a toujours remarqué que dans les œuvres d'Agota Christophe, la langue française n'est jamais représentée avec les qualités qui l'accompagnent traditionnellement et qui influencent souvent le discours des écrivains translingues. Le français est considéré en général par ses auteurs comme une langue de liberté, surtout s'ils proviennent de pays où leur œuvre était par exemple censurée, ou s'ils sont exilés, comme c'est le cas aussi d'Agota Christophe. Donc langue de liberté, mais aussi langue de clarté, d'universalité, de logique, etc. Toute cette mythologie de la langue française est contestée par Agota Christophe, qui, au contraire, insiste, surtout dans l'autobiographie, sur le fait que pour elle, le français, c'est une langue ennemie. Une langue qui lui a été imposée, donc une langue qu'elle n'a pas choisie.
Je parle le français depuis plus de 30 ans. Je l'écris depuis 20 ans, mais je ne le connais toujours pas. Je ne le parle pas sans faute, et je ne peux l'écrire qu'avec l'aide des dictionnaires fréquemment consultés. C'est pour cette raison que j'appelle la langue française une langue ennemie, elle aussi. Il y a encore une autre raison, et c'est plus grave, cette langue est en train de tuer ma langue maternelle.
Alors l'analphabète, racontez-nous déjà l'histoire de ce texte étrange, écrit en français, publié d'abord en allemand.
Au début des années, je crois, ou au milieu des années 90, elle m'a dit, mais j'ai un petit texte autobiographique. Et ce texte avait été publié en allemand dans la revue Du. J'ai regardé le texte français. Et c'était formidable d'avoir son tapuscrit, hein, qui n'avait jamais été édité. Et puis, ce qu'il y avait de plus extraordinaire, c'est que à la fin de certains chapitres, enfin à deux ou trois endroits, il y avait des petites notes manuscrites que je ne comprenais pas. La phrase n'était pas vraiment terminée. Elle était claire en allemand, mais je ne savais pas ce qu'était la phrase française.
Alors je lui ai demandé. Elle n'a même pas voulu qu'on soit. Elle fait par téléphone. Et je lui donnais la phrase qui n'était pas terminée et ça venait comme un boomerang. Elle la terminait et c'était décidé et c'était ça. Ça, c'était absolument étonnant. Elle ne voulait pas le relire. Ça m'a montré qu'elle était, elle avait un sens de la langue exceptionnel.
Pour vous, Marlies Pietri, l'éditrice, la lecture de l'analphabète, qu'est-ce que ça peut apporter à notre connaissance?
Ah, mais ça donne toute sa vie en quelques mots. Et le chapitre le plus frappant, probablement, c'est celui sur les langues. Mais c'est aussi un texte qui dit quelque chose sur ses choix d'écriture.
Après quelques années de vie en Suisse, comme elle l'écrit dans son autobiographie, Agota Christophe parlait le français, mais ne savait pas l'écrire. Elle était donc redevenue analphabète. L'analphabétisme était sa condition initiale dans la langue française. Agota Christophe en fait le point de départ de son écriture, et je dirais même le principe esthétique et moral de son écriture romanesque, une fois qu'elle aura abandonné donc la poésie. Donc si elle n'est plus depuis longtemps analphabète, elle choisit d'écrire comme une analphabète. Écrire comme une analphabète, naturellement, ne veut pas dire écrire en faisant des fautes, mais ça veut dire plutôt écrire avec le moins de moyens possible, écrire seulement avec les mots nécessaires, indispensables. Et ce n'est qu'à partir de ce principe qu'on peut comprendre une série de choix stylistiques de l'auteur. Par exemple, ce qui a été défini son minimalisme, donc des choix de simplicité, de brièveté, à tous les niveaux de la langue, donc surtout au niveau de la syntaxe, qui est surtout dans le grand cahier élémentaire, dans le lexique de base, qui est dépourvu de mots complexes, et aussi l'absence d'adjectifs, d'adverbes, l'usage de la répétition, qui sont des traits de simplicité, mais aussi des traits qui peuvent rappeler au lecteur l'écriture de quelqu'un qui est en train d'apprendre la langue, de l'apprivoiser. Naturellement, c'est une fiction. Mais c'est une fiction, justement, d'analphabétisme.
Cette langue française imposée, ennemie, dans laquelle elle travaille, Mélinda Mode, vous lisez le hongrois. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de hongrois dans la phrase française d'Agota Christophe?
J'ai lu ses œuvres tout d'abord en français. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'étonnant, de très, très pur, mais en même temps de violent. Et je pense que cette violence vient du fait de l'usage des verbes. Il y a des phrases brèves avec beaucoup de verbes d'action. Et c'est quelque chose qui peut venir en effet du hongrois, parce que en hongrois, les phrases sont construites d'une manière où le centre est le verbe. Et le verbe peut se placer n'importe où dans la phrase. Et on construit les phrases autour des verbes d'action. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en effet dans son écriture. Et c'est pour cela que ces phrases sont mouvementées, sont violentes, sans qu'il y ait vraiment des descriptions de caractères. On connaît les caractères par leurs actions.
J'écris très facilement la première fois, c'est-à-dire j'écris à la main dans des cahiers, des colliers, et très vite. Mais ça, c'est des choses que j'écris comme ça vient, sans faire attention à quoi que ce soit. Mais de cette chose crue-là que j'ai, le lendemain, je dois tirer quelque chose de convenable. Alors là, je retravaille. Après, je corrige encore une fois. C'est-à-dire, je supprime beaucoup, surtout. Je supprime tout ce qui n'est pas nécessaire à la compréhension de la chose, tous les surcharges. Et après, je réécris encore une fois, et puis, bon, quatrième fois en général, ça va. Bon, on pourrait travailler à l'infini, si vous voulez, mais pour finir, on s'en lasse tellement qu'on ne peut plus, et il faut finir une fois.
Et sur son apprentissage de l'écriture, vous vous souvenez de ça?
Elle a toujours écrit la nuit. Enfin, tard le soir, la nuit. Et en fait, c'est pas une activité qui était vraiment perceptible pour moi. Moi, ce que j'ai su à un moment donné, c'est qu'elle écrivait pour la radio, des pièces radiophoniques. Et que là, elle a commencé à voyager parce qu'elle a, il me semble, gagné quelques distinctions qui l'ont amenée à aller en Belgique ou ailleurs. Et c'est là que j'ai véritablement pris conscience qu'elle était un auteur, mais pas avant. Et ça, c'était, je devais avoir 18 ans.
Elle nous impressionnait beaucoup parce que on n'avait pas l'habitude d'une littérature, minimaliste, laconique comme elle était.
Daniel Deroulé.
Surtout en Suisse, c'est les professeurs de français qui font la littérature. Et pour une fois qu'il y avait une ouvrière émigrée en plus et qui assumait ce qu'elle racontait, on avait beaucoup d'admiration. Mais on savait aussi que ça irait pas plus loin que ce qu'elle avait écrit là. Elle pouvait pas broder par là-dessus. Et le fait qu'elle était bilingue, le fait qu'elle écrivait pas dans sa langue, était très important aussi pour nous, parce que beaucoup d'auteurs en Suisse sont confrontés à ce double rapport à la langue, c'est-à-dire avoir un rapport avec l'allemand ou d'avoir une langue incertaine. Et ça nous, ça nous donnait du courage d'écrire avec la même, avec le même manque d'éloquence et de rhétorique, Et pour nous, c'était un modèle, Elle détonnait totalement dans le paysage littéraire général. Elle apparaissait comme un écrivain de l'ailleurs, qui pourrait être en Afrique, qui pourrait être au Canada. C'était évident que c'est pas une littérature qui est produite depuis le centre, mais elle est produite depuis la périphérie. Et elle était la seule, parmi nous, parmi tous les écrivains de Suisse romande, qui pouvait vivre de ce qu'elle écrivait, parce qu'elle avait des tirages importants, jusqu'à 400 000 au Japon. Et donc, d'une certaine manière, ça continuait de faire sa vie, puisqu'il y avait toujours des nouvelles traductions qui sortaient. Elle m'en a même donné une en disant, je ne comprends pas ce que c'est. C'était des caractères bizarres pour elle. Ça entretenait le fait qu'elle restait une écrivaine, même si elle n'écrivait plus. Je pourrais peut-être lire justement ce tout dernier passage. C'est comme une espèce de post-scriptum à hier, à son livre. 2 ans après le départ de Caroline, est née ma fille Lynn. Une année plus tard, est né mon fils Tobias. Nous les mettons à la crèche le matin, nous les reprenons le soir. Ma femme, Yolande, est une mère exemplaire. Je travaille toujours à la fabrique d'horlogerie. Au premier village, personne ne monte dans le bus. Je n'écris plus.
Et quand j'ai commencé à écrire du théâtre en français, ça devait être dans l'année 70. Et j'ai fini 2 pièces de théâtre en 72. Et ces pièces-là, je les ai montrées à un ami qui était metteur en scène, qui les a trouvées très bonnes déjà. Et une de ces pièces a été bientôt après jouée à Neuchâtel dans un cabaret. Mais comme je continue à écrire des pièces, mais c'est très difficile à les faire jouer, on m'a conseillé d'envoyer à la radio Suisse romande. J'en ai envoyé 3 et elles ont été prises très vite.
La vie culturelle de Neuchâtel se faisait énormément autour du centre culturel neuchâtelois.
Monique Dittichel.
Et il y avait une école de théâtre, il y a toujours d'ailleurs au centre culturel. Et il y avait toute une équipe dans ce centre. Elle nous a apporté les pièces qu'elle avait écrites. Et plusieurs ont été montées dans le cadre de l'école. Et son pessimisme, sa vision noire du monde était exprimée dans ces pièces. Et nous, on pouvait s'en donner à cœur joie. Parce que dans la noirceur d'un monde, il y a toujours, un humour très noir qui s'en dégage.
On le voit très bien dans une pièce comme Le Monstre, qui est une pièce très ouverte à l'interprétation et qui a déjà donné lieu à beaucoup d'interprétations différentes.
Sarah de Balzi.
Dans sa réception. C'est l'histoire d'une peuplade primitive qui vit dans un monde imaginaire, dans un village isolé. Et un personnage qui sera le protagoniste, qui s'appelle Nob, trouve un jour un monstre qui est tombé dans un piège. Ce monstre commence à grandir et les autres habitants du village commencent à éprouver de l'affection envers lui. Cependant, le monstre est aussi très dangereux, naturellement, et il commence à dévorer les personnages les uns après les autres et à grandir de manière progressive, en sorte que le village doit même se déplacer. Nob est le seul qui semble se rendre compte de ce danger. Les autres sont complètement séduits par la présence du monstre. Les habitants du village donc construisent un mur et Nob empêche tous ceux qui s'approchent de ce mur de passer de l'autre côté. Il y a beaucoup d'interprétations possibles qui ont été par ailleurs proposées, des interprétations politiques naturellement, mais aussi des interprétations écologistes. D'ailleurs, chacune semble en quelque sorte contredire l'autre, mais aussi s'autopiéger en quelque sorte. Donc on ne peut jamais mener jusqu'au bout une interprétation. Surtout, chacun des personnages se contredit, aucun des personnages n'est vraiment méchant, aucun des personnages n'est vraiment gentil. Nob lui-même, qui finit par devenir lui-même un monstre, ne semble pas vraiment avoir de choix.
Et qu'est-ce qu'elle disait sur le théâtre? Qu'est-ce qu'elle aimait?
Elle aimait beaucoup Thomas Bernhard. Du Renoumat aussi. Que j'aimais bien la clé de l'ascenseur. C'est la vie d'une femme dont le mari a pris la clé, qui vit dans une tour, dont le mari a pris la clé, elle n'a plus de clé, elle ne peut que rester assise dans cette tour, en attendant que son mari rentre. Elle est assez terrible contre le mariage.
Écrit pour la radio. Agota Christophe, La clé de l'ascenseur. Réalisation, Michel Sidorov. Avec Martine Chambacher, Marc-Henri Boisse, Maxence Maillefort.
Le matin, il part dans la plaine, mais il revient tous les soirs. Depuis 20 ans, il revient tous les soirs. Le reste du temps, il est vrai, je suis seule. Je l'attends. Mais quelle chose merveilleuse que l'attente, quand on est sûr. De quoi? Sûr de quoi donc? Sûr? Du retour de l'être aimé. En l'attendant, je regarde la plaine. Je brode comme les châtelaines d'autrefois. Les châtelaines malheureuses de jadis. Mais moi, je ne suis pas malheureuse. Je suis heureuse. Heureuse.
Dans La clé de l'ascenseur, on a la seule pièce que l'on peut définir féministe d'Agota Christophe. Elle met en scène une femme enfermée dans une tour. C'est son mari qui l'a enfermée dans cette tour. Et progressivement, elle est privée de toutes ses facultés physiques et psychiques. C'est une pièce très violente, naturellement. Et ce n'est qu'à la fin qu'elle arrive à se rebeller à travers sa voix. C'est sa dernière faculté, c'est la seule faculté physique qui lui reste, et c'est celle par laquelle elle arrive à la toute fin de la pièce à se libérer de cette oppression. En général, le théâtre est caractérisé par une plus grande expérimentation, à la fois au niveau de la langue et au niveau des personnages, de l'intrigue. On comprend aussi, en lisant le théâtre, que le style d'Agota Christophe que l'on connaît à partir de ses romans, et surtout du minimalisme du Grand Cahier, est une construction progressive. Il y a dans les pièces une plus grande variété de moyens d'expression, une plus grande variété de registres, incluant par exemple le comique qui sera exclu, même si pas complètement, dans les romans.
Oh, Jacques ! Elle t'a tué ! Cette femme horrible !
Non, pas à ma voix.
Dès que je pense à Agota, je pense toujours à nos conversations téléphoniques, car en réalité, on ne se voyait presque jamais.
Bertrand Visage.
Agota se déplaçait difficilement jusqu'à Paris. Elle était affligée de différents maux physiques, en particulier ses pauvres jambes la portaient difficilement. Et donc, faire un trajet en train ou en avion lui coûtait énormément d'efforts. Elle ne quittait pas Neuchâtel. Et donc, nos conversations étaient de longues, interminables conversations au téléphone. Mais où elle parlait des petites choses de la vie, aussi de son émerveillement d'être devenue une auteure reconnue. Elle avait l'impression qu'il s'agissait, qu'on parlait de quelqu'un d'autre qu'elle, d'une auteure qui portait par hasard son nom, mais qui n'était pas elle. Et, par exemple, elle était émerveillée du fait que, au Japon, l'œuvre d'Agota Christophe occupait une place considérable. Elle était devenue une star au Japon. Elle touchait énormément de droits d'auteur en yens qui lui arrivaient jusqu'à Neuchâtel. Elle trouvait cela incroyable et miraculeux, voilà. Et elle en riait comme d'une bonne surprise, mais dans laquelle elle n'avait aucun mérite personnel.
Non, on pouvait boire avec elle, on pouvait être dans une sympathie, on pouvait parler du monde, du prix des chemins de fer, de la politique, oui. On parlait de la manière dont les auteurs doivent être défendus, ou de ce qui se passait avec la fin de l'Union soviétique, mais on était... Nous aussi, des taiseux, on est autour d'une table et puis on se voit. Vous connaissez l'atmosphère. Si vous êtes entré dans un bistrot en Suisse, vous savez bien que les gens s'attablent, mais ne discutent pas forcément. Quand j'allais chez elle, elle me parlait de ce qu'elle avait vu à la télévision le soir avant. Il y avait une retenue dans sa vie et je pense que c'est une fermeture qui s'est accentuée aussi. Puis elle est morte.
Elle est restée fidèle à elle-même, sauf que sa santé se dégradait. Elle a continué à vivre un peu toujours de la même façon. Elle est venue jusqu'au bout dans notre petit théâtre qui s'appelle Théâtre Tumulte à Neuchâtel. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était avec une autre auteure, Erika Pedretti, qu'elle aimait beaucoup aussi. Et on est allé faire un grand repas au restaurant et on savait tous qu'Agota Christophe nous disait au revoir. Mais elle nous disait au revoir quand elle était encore très bien. Et c'était très, très, très touchant.
4 mois avant sa mort, ça n'était bien sûr pas prévu comme ça, elle m'a demandé d'aller la voir. Elle voulait nous remettre des textes, remettre à Zoé, des textes... à publier. Et je suis allée la voir à Neuchâtel. Je voulais aussi lui présenter Caroline Couteau, qui était depuis 2 mois directrice de Zoé. Et nous avons passé un long moment, les trois ensemble. Et là, elle avait pris la décision. Elle nous a tendu une liasse, de façon très décidée, qui était tous ses poèmes en hongrois, qui avaient été mise au point, mise au net, qu'elle avait donné aux archives, et elle n'avait traduit que les titres des poèmes. C'est ainsi qu'on les a reçus, elle souhaitait qu'ils soient publiés.
Et ils ont été écrits à quelle époque, tous ces poèmes ?
Les premiers ont été écrits à la fin des années 50 et dans les années 60. Beaucoup ont été écrits dans les années 70, avant qu'elle ne publie le Grand Cahier. Et elle en a écrit encore après. Elle en a encore écrit longtemps, parce qu'il y a des thèmes comme... Il y a deux poèmes sur l'informatique, sur le...
Oui, l'ordinateur.
Sur l'ordinateur, voilà. Elle imite l'ordinateur, est-ce que veut l'ordinateur. Ça a dû être écrit quand elle a pris un cours d'informatique. Donc en fait, ça s'étend sur une longue période, et une grande partie de ses poèmes sont un travail de mémoire sur faire ressurgir les poèmes qu'elle avait écrits en hongrois. Parce que toute sa vie, elle a dit que la perte de ses poèmes était la perte la plus grave pour elle. En quittant la Hongrie, elle n'a pas pu prendre un papier avec elle. Donc ils sont reconstitués et créés après.
Et aujourd'hui, dans les archives, il reste quoi, Marlies Pietri ?
Mais ce qu'il y a dans les archives, c'est énormément de ces cahiers sur lesquels elle écrivait, qui sont vraiment comme des cahiers d'écolier. La plupart sont encore reliés. La difficulté du travail, c'est de repérer si elle a copié ou si ce sont des textes d'elle, textes écrits soit en hongrois, soit en français.
Elle recopiait des textes, oui, écrits par d'autres écrivains ?
Absolument. Pour apprendre le français, elle recopiait des écrivains français sans mettre qui elle recopiait. Parfois on le sait, parfois on le sait pas, parfois il y a une date, parfois il n'y en a pas. Elle copiait et copiait des textes.
Et qu'est-ce que vous pourriez me raconter d'autre ?
Parfois elle récitait des poèmes français. Elle aimait beaucoup la poésie française. Elle récitait Verlaine, Rimbaud à haute voix. Quelques vers me sont restés. Ma vie n'a pas été imprégnée par une mère auteur. Voilà. C'est resté jusqu'à la fin une maman dans son rôle de maman et non pas dans un rôle d'auteur. C'est peut-être ça que je tiens à dire. Elle était très très peu disserte sur son travail. Nous, ses enfants, on s'est jamais senti non plus le droit d'en parler. Et c'est peut-être pour ça que mes propos sont peut-être un peu lapidaires, mais on a constaté en frère et soeur qu'on était dans la même attitude qu'elle, finalement, qui ne parlait pas de manière très extensive de son travail. On ne s'est pas donné le droit non plus de le faire, puisque elle ne le faisait pas.
Menj, Béli Nagyisten, hozzád kiáltunk, keseredett szívvel, hozzád fogyatunk.
C'était la route de ceux qui ont quitté leur maison, qui ont quitté leur pays. Cette route ne menait nulle part. C'était une route droite et large qui n'avait pas de fin. Elle traversait les montagnes et les villes, les jardins et les tours, sans laisser de traces derrière elle. Quand on se retournait, elle avait disparu. Il n'y avait de route que droit devant. De part et d'autre s'étendaient d'immenses champs boueux.
Agota Christophe, une Hongroise suisse dans la littérature française. Avec Bertrand Visage, romancier et éditeur au Seuil, Mélinda Mode, doctorante du laboratoire d'études de genre et de sexualité de l'Université Paris 8, Marlies Pietri, fondatrice des éditions Zoé, Sarah de Balzy, doctorante en littérature française et comparée à l'Université de Cergy-Pontoise, Susanna Berry, fille d'Agota Christophe, Daniel de Roulet, écrivain, ancien président de l'Association des auteurs et autrices de Suisse, Monique Dittisheim, comédienne et cofondatrice du Théâtre Tumulte à Neuchâtel. Avec les voix de Jean Lucès, Paula Jacques, Olivier Germain Thomas. Les textes du Grand Cahier, lus par Claudine Berthet. Production Irène Omelianenko, assistée de Claire Poinsignon. Archivina Annie Lozana.
Prise de son, Patrick Muller. Mixage, Benjamin Vignal. Réalisation, Ghislaine David. Une émission proposée par Sylvie Tanet.
Cette émission est disponible en écoute ou podcast sur le site de France Culture. À l'occasion de l'anniversaire des 30 ans du musée d'Orsay, France Culture y sera samedi 3 décembre en direct avec Concordance des temps, L'atelier du pouvoir, Tout un monde et Mauvais genre. Pour l'occasion, nous vous proposerons Une vie, une œuvre, Édouard Manet.